Eh bien, bonjour tout le monde. Je me retrouve aujourd'hui avec Lolo pour faire un petit update Mercato. On a quelques petites news qui sont tombées. On ne connaît pas forcément les profils, mais on va quand même en discuter. Déjà, il y a Colomwani, hein, épisode encore, un again avec la dernière nouvelle. Ekitike serait dans le deal, mais Ekitike n'aurait pas forcément envie d'y aller. Quelle est ta lecture, toi, sur Colo? Sur l'évolution du dossier plus.
En fait, là, on rentre dans quelque chose où on arrive à la fin du mercato et on est un peu dans l'urgence de pouvoir conclure un peu ce deal. Pour moi, c'est quelque chose. Bon, si t'es Campos, tu devais au moins le faire depuis un petit moment ou le cibler depuis un petit moment. Là, on se retrouve un peu à le faire dans l'urgence et on n'est pas forcément en position de force puisque Francfort n'est pas dans l'obligation de pouvoir le vendre, surtout cette année. Le joueur, pour l'instant, veut nous rejoindre, c'est ce qui est dans notre faveur, mais c'est eux qui fixent le prix. Aux dernières infos, on aurait fait une offre de 80 millions hors bonus. Et
70,
et on approcherait des 80 millions hors bonus auprès du joueur. Pour moi, c'est un joueur que tu dois faire. C'est un attaquant qui est polyvalent. Il peut aller sur le côté gauche, le côté droit. Il peut rester dans l'axe, comme ce qu'il a pu faire à Francfort ou à Nantes. Et ça peut être aussi un très bon remplaçant en backup d'un Dembélé, d'un Mbappé ou bien même d'un Gonzalo Ramos, en plus du fait qu'il soit français, qu'il soit jeune, qu'il a la capacité d'évoluer. Et on l'a vu en Ligue des Champions ou encore à la Coupe du Monde où il aura fait de très belles rentrées et de très bonnes choses. J'espère vraiment que ça va se faire avant mardi. J'ai cru qu'il y avait une dernière deadline maximum pour le club.
C'est ce qu'ils ont dit, mais c'était censé être genre là, maintenant, et en fait, c'est encore en train de parler. Il y a beaucoup de poker menteur dans ce dossier de part et d'autre. Il y a aussi Campos qui disait que le PSG est limité par le fair play financier, enfin, qui a laissé bruiter ça. Enfin, c'est beaucoup de bluff. Pour l'instant, c'est pas encore posé, quoi. Il y a encore un petit peu de temps, même si, comme tu le dis, ça va vite venir. Et pourquoi? Pour toi, du coup, ouais, c'est même à 100 millions, parce que grosse merde, même si c'est 70 plus Ekitike plus bonus, ça revient à 100 millions. C'est 100 millions qu'il faut dépenser pour ce joueur. C'est pas un peu cher?
Oui, ce serait un petit peu cher, oui, parce que tu te dis que c'est un joueur avec très peu d'expérience, mais pour moi, les garanties sportives, ils sont parce que tu es sur un attaquant quasiment 3 en 1. Tu vois, qui peut faire trois postes en un. Donc, la polyvalence, c'est vraiment super important, surtout dans un football d'aujourd'hui. Tu as la possibilité aussi, tu vois que le mec nous a aussi donné des garanties sportives, puisqu'il aura fait quelque chose quand même de très fort à la Coupe du Monde. Et ça n'a pas été en match de poule, ça a été quand même en finale où il a été très impactant. Ce qu'il a pu faire aussi avec Francfort, Ligue des Champions, on l'a vu contre Marseille et contre d'autres équipes, c'est aussi été très intéressant et plus qu'intéressant. Grosse marge de progression parce qu'il est jeune. Si tu dois faire un investissement, pour moi, sur du moyen long terme, c'est ce type de joueur-là. Et bon, faut qu'on arrête en fait de se dire, ce genre de joueur-là, on va aller chercher à 40 millions, quoi que ce soit, puisque c'est pas du tout la même gamme de joueurs. À ce moment-là, on reste avec Ekitike là, et puis voilà, et on a ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, pour moi, avec Colomwani, tu auras déjà plus d'assurance. Sur le plan Ligue des Champions, sur le plan championnat, puisque c'est un mec qui connaît la Ligue 1. Le mec, il l'aura montré, et il le montre en Bundesliga. Et pour moi, il n'aura aucun souci à pouvoir s'adapter dans un championnat de Ligue 1, ou même avec le PSG. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, s'il faut mettre le prix, je le mets. Et actuellement, après, tu as qui de plus à ce prix-là? T'avais peut-être un Kane, mais Kane voulait pas venir, donc.
Ouais, mais tu peux pas comparer Kudus et Kane. Non, Kudus, là, je m'emballe. Tu peux pas comparer Colomwani et Kane. Ouais, Kudus, parce que moi, c'est mon petit chouchou, mais bon, on en parlera peut-être après. Mais Colomwani, non, tu peux pas comparer avec Kane.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais le truc, c'est que si tu dois vraiment comparer avec un joueur jeune.
Ouais, mais regarde, Barcola, par exemple.
Barcola, tu peux, mais Barcola, pour moi, c'est trop cher ce que demande Lyon actuellement.
Ah, si Barcola, c'est trop cher, c'est quoi Colomwani? Alors oui, je suis d'accord, Colomwani a pu se prouver que Barcola, et là-dessus, il n'y a pas photo à Barcola, il a fait 6 mois. Il y a peut-être même, il faut se méfier, hein, quand un joueur fait 6 mois, il peut très bien ne pas confirmer derrière.
Aussi.
Mais Colomwani à 100 millions, moi, ça me paraît ubuesque. C'est un joueur de qualité, ça, je le renie pas. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui, à terme, a le niveau d'un club qui veut être dans les premiers rôles en Ligue des Champions? J'en suis pas sûr. Il l'a pas encore prouvé. Et là où il est intéressant et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, sur un banc, il est nickel parce qu'il peut remplacer à droite, il peut remplacer à gauche, il peut remplacer devant. Il est très utile, il a montré son efficacité. Après, est-ce qu'à terme, c'est le genre de joueur avec lequel tu veux être, tu veux y aller en l'ayant titulaire? Et est-ce que tu veux mettre 100 millions sur un mec qui sera pas forcément titulaire à terme? Ça me paraît un peu beaucoup. Mais bon, après, de toute façon, on n'est que dans la supposition, il faut voir sur le terrain, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est qu'il a beaucoup pour lui. Il peut rentrer à la fois en backup pour tourner dans la rotation, comme il peut s'installer sur du moyen long terme en étant potentiellement à la place d'un Gonzalo Ramos. On ne sait jamais, mais si tu as Mbappé qui part, il pourra prendre sa place aussi à gauche. Il aura aussi toutes les qualités pour pouvoir s'imposer. C'est quelqu'un qui est grand, technique, rapide, capacité de percussion. Il est quand même à droit devant le but, même s'il doit continuer à progresser. Et lui-même l'avait dit sur différentes interviews. Il est international français, il a des matchs en Ligue des Champions, il a quelques références aussi. Pour moi, en fait, il a tout pour le faire. Et le dernier joueur qu'on a fait, et qui était, bon, certes, pas aussi cher, c'est pour ça que je dis que 100 millions, pour moi, c'est un peu trop. Mais là, comme tu es dans l'urgence, tu n'es pas forcément en position de force pour pouvoir dire « Ouais, mais non, mais les gars, on va tirer un petit peu moins. » Pour moi, le prix possible parfait, ce serait 80 millions si Paris s'y approche, avec peut-être un joueur en plus.
C'est cher, ça.
Mais ça reste, je sais que ça reste cher, mais le dernier en date, c'est quoi? C'est Gonzalo Ramos, et on l'a payé 80 et quelques. Donc,
oui, mais Gonzalo Ramos correspond à un profil qu'on n'a pas. Et en fait, si tu veux, maintenant, ce qui nous manque, c'est pour pallier aux blessures, et notamment à Ousmane Dembélé. Et là, pour le coup, on va sortir un peu de Colo, parce qu'on parle beaucoup de Colo Muani, alors que peut-être ça va se faire, mais le temps presse, et Francfort, comme tu l'as dit, joue la carte. On verra ce que ça va donner. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez, s'il faut faire un all-in sur lui, même si vous avez déjà un avis dessus. Mais là vient de tomber la nouvelle sur Johan Bakayoko. Donc, il y a un jeune de 20 ans au PSV qui a fait sa première saison pro l'année dernière, 5 buts, 5 passes décisives, qui sera à 25 millions. Alors lui, a priori, de ce que j'ai compris, je vais pas mentir, hein, je connais pas super bien le joueur, mais il peut jouer que à droite. Il peut jouer, en tout cas, il a joué pour l'instant que à droite. Est-ce que ce serait justement, si tu peux pas faire si tu peux pas faire Kolo Muani, est-ce que pour toi, ce serait une piste intéressante pour le coup?
Ouais, ce serait une piste intéressante. Bon, déjà en termes de prix, oui. Après, pour moi, ça te limiterait beaucoup sur le terrain, même si le mec t'es capable de le mettre que à droite. Quid de Dembélé si Mbappé reste?
Dembélé se blesse souvent. Hein.
Bah, moi, je pars du principe que Dembélé, tu le prends aujourd'hui, il va bien, il va rester là, il va rester titulaire jusqu'à, on espère. Donc, s'il vient, c'est qu'il va rester titulaire un bon moment. Après, si tu veux le mettre dans la rotation, oui, c'est un joueur assez percutant, qui est habile techniquement, qui, en tout cas, quand tu l'as sur le terrain, en fait, tu sais que tu vas avoir du déséquilibre côté adverse grâce à lui, parce qu'il va pas hésiter à tenter, à centrer ou même à frapper. Donc, ça reste pas mal. Après, un petit peu moins d'assurance sur le point de vue à l'échelle européenne, à voir exactement.
Il a fait qu'un an et en Europe, hein, en Hollande, il a que ça dans les jambes. Hein. Avant ça, il était chez les jeunes, quoi.
À voir, c'est un peu bon, ce serait pas l'échelle d'un Barcola, mais il doit être dans l'année de la confirmation pour cette année qui va arriver. Est-ce que le step Paris Saint-Germain ce serait peut-être pas assez grand pour lui, je ne sais pas. C'est...
Bah, le truc, c'est comme tu le disais, tu vois, on part avec un Dembélé qui est titulaire. Donc clairement, il viendrait et comme il peut jouer que à droite, lui, il serait là qu'en remplaçant de Dembélé. Et du coup, s'il venait cette première saison, faut pas souhaiter une blessure de Dembélé. Hein, on va souhaiter que Dembélé fasse une saison complète, même s'il y a des inquiétudes avec ce joueur. Mais s'il vient une saison, il viendrait pour l'instant, juste pour permettre à Dembélé de se reposer de temps en temps. Donc, ça lui laisserait le temps de grandir. Et tu prends un joueur qui a un potentiel, en tout cas, assez certain. Tu as quand même pas mal de clubs qui s'intéressent et qui le suivent un petit peu. Est-ce que ce n'est pas un move, justement, que le PSG devrait faire plutôt que, justement, acheter les joueurs une fois qu'ils valent 50 millions dans des situations où tu as clairement un titulaire et tu peux laisser le mec grandir à l'ombre du titulaire? Est-ce que ce ne serait pas un move intéressant pour le PSG?
Bah, je te dirais aussi, je te poserais une question, est-ce que c'est peut-être pas plus intelligent de prendre un joueur qui serait quasiment presque au même niveau que Dembélé pour assurer une bonne concurrence. Moi, le problème avec Bakayoko, c'est que si tu le fais, c'est un joueur qui, qui a besoin de progression et qui a besoin de jouer pour pouvoir continuer à s'affirmer et à confirmer. Et le truc, c'est que si tu le mets derrière un Dembélé, certes, qui potentiellement peut se blesser rapidement dans la saison ou pas, même si je le souhaite vraiment pas, est-ce que c'est ça qui ça peut peut-être pas le bloquer dans sa progression? Moi, je le
tourne. Ça serait trop tôt. Ça serait trop tôt. C'est le fait que Dembélé risque de se blesser, c'est un argument pour ne pas le prendre. Ce qui serait intéressant pour ce joueur, c'est de venir faire une première saison et faire 5 matchs. Mais s'il se retrouve à en faire 15 parce que Dembélé est out pendant 3 semaines, oui, ça peut être un problème et la pression peut être trop élevée.
Et c'est pour ça que le step du Paris Saint-Germain, est-ce que ce serait peut-être pas trop haut? Mais on est aussi dans une question où tu te dis, s'il reste au PSV et qu'il fait une bonne saison, bah, l'année prochaine, il ne sera pas à 25, il sera peut-être à 60.
Mais c'est là où tu es en situation de ouf, parce qu'en fait, des offensifs, tu n'en as que 3. Lille, on ne sait toujours pas où exactement est-ce qu'il joue. On n'a toujours pas bien saisi comment est-ce qu'il va être utilisé. Donc, des offensifs, à proprement parler, tu n'en as que 3. Et en effet, tu as besoin de cadors. Et alors, on a parlé de Colomouani. On va vite fait dire deux petits mots sur ce qu'a dit Jennifer Mandelswitch. Ouais. Qui a dit « c'est pas faute d'avoir proposé, visiblement avoir les mêmes initiales que l'agent maison, non dit lui répéter Jorge Mendes, ça n'a pas suffi, à propos de Mohamed Kudus, qui lui aussi, pour le coup, peut jouer partout. Est-ce que tu comprends qu'on ne soit pas affolé pour aller le chercher à 40 millions ?»
Moi, j'ai vu l'info ce matin et ça m'a déprimé. Très clairement, ça m'a déprimé. Le mec, il a mis un triplé juste avant, enfin son dernier match avec l'Ajax, c'était, enfin bref, voilà. Il est rapide, technique, capable de pouvoir être polyvalent aussi, très fort en 1 contre 1, très grosse marge de progression qui a prouvé sur sur la scène européenne.
Mondiale.
Et sur mondiale. La scène aussi.
Il a fait un mondial monstrueux. Hein.
Le problème, encore, même si je reste malgré ça content un peu du mercato, même s'il y a des choses encore à prouver et on attend ces derniers jours pour avoir des confirmations. Le problème de notre direction, ça a été les contacts de Luis Campos et qui se sont faits quasiment que sur du Jorge Mendes. Et quand on arrive à lui proposer autre chose, bah là, ça a été soit plus compliqué, soit ça ne s'est pas fait. Et c'est ce que je reproche énormément de ne pas être parti sur Kudus, parce que ça aurait pu être le joueur très très bon qui rentre dans notre effectif, qui est surtout qui est pas cher et qui est monstrueux en fait.
Il peut jouer 10, il peut jouer attaquant, il peut jouer ailier droit, pas forcément gauche, il peut même jouer 8. Il est très très bon au milieu. C'est un joueur, moi, qui m'avait tapé dans l'œil avant sa blessure, quand sa première saison à l'Ajax, en fait j'étais complètement tombé amoureux. Je l'ai pas revu entre temps, je l'ai revu au mondial, j'ai redécouvert. C'est un joueur qui a un peu une maturité physique, comme tu sais, l'impression que te dégage un Warren Zaïre-Emery, du mec qui est très jeune mais qui en même temps est super mature sur le terrain, c'est-à-dire qu'il a déjà compris avant les autres, comme s'il avait 25 ans en fait et qu'il avait 8 ans de métier de professionnel dans les jambes. T'as un peu cette sensation aussi avec Mohamed Kudus, parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on en parle, il a eu cette vilaine blessure, mais il a que 23-24 ans. Il est super jeune et effectivement, à 40 millions, il y a juste une rumeur parce qu'il a été proposé à Barcelone et pareil, c'est parti en sucette. Et ça serait l'agente qui peut-être est très gourmande. C'est-à-dire qu'au-delà des 40 millions, en fait, il y aurait tout un tas de frais cachés et c'est peut-être ça qui fait freiner. Mais pour le coup, enfin, tu prends Mohamed Kudus, Colomouani, je pense que l'agent va pas demander 40 millions. C'est du même niveau que Colomouani et il peut te remplacer quasi tous les postes aussi. Il y a juste à gauche où là, Colo peut jouer à gauche et Kudus, a priori pas. Mais pour moi, c'est une énorme tuile de pas avoir poussé un petit peu plus pour Kudus, quoi. J'adore ce joueur.
C'est surtout ça. Et comme je te dis, c'est le problème de Campos cette année sur son mercato. Même si, pour moi, il est le mercato, moi, je donne une note de 5-6, voire un peu plus, parce que j'attends vraiment.
Sur 20, hein.
Sur 10, et j'attends la fin du mercato pour pouvoir bien le noter, s'il faut, et notamment qu'est-ce qui va se passer et avec qui on va partir réellement, parce qu'il va falloir compter les départs et aussi les arrivées. Mais en fait, ces connexions avec Jorge Mendes, pour moi, ça aurait été un problème pendant toutes les négos, en fait. Et on l'a vu que même sur des dossiers
qui étaient. C'est une solution, mais ouais, c'est aussi un problème.
Bah, c'est ça. Et sur même des dossiers qui étaient soi-disant faits, bah, ça ne s'est pas forcément fait. Et j'ai en tête bah, surtout le Bernardo qui, moi, m'a fait le plus mal parce que ça devait être, on en parlait depuis, la cible de comme jamais. Et au final, bah, le mec, il a prolongé là-bas. Mais bon.
Comme Gabi Vega qui est au Celta et qui part en Arabie. Et bon, Gabi Vega, c'est jeune, mais bon, t'as besoin d'un milieu.
De base aussi, hein, donc faut pas. Il négocie un peu avec lui-même. Bon, si ça
Bien
s'est
sûr.
fait de son côté, je ne sais
Bien
pas
sûr.
pourquoi. Voilà.
Mais justement, j'ai trop lancé parce que mine de rien, on passe pas mal de temps. On en est déjà à 15 minutes, mais bon, c'est pas grave. Mais justement, il y a aussi ce manque. Donc, il y a ce manque en offensif parce que clairement, on n'en a que trois à voir comment est-ce qu'on va jouer avec lui. Mais il y a peut-être aussi un manque en milieu de liaison, milieu pas forcément offensif, mais un 8 qui est relativement haut, capable d'assurer des transitions, même si on a vu des choses très très intéressantes au dernier match. Et vient la rumeur qui a été annoncée par PSG Inside Actu que Van de Beek aurait été proposé à tout un tas de clubs, dont le PSG. Qu'est-ce que tu penses du joueur?
Van de Beek, depuis Manchester United, il avait été choisi par Ten Hag pour pouvoir être relancé. Il avait fait quelques matchs qui étaient intéressants. Moi, le problème avec ce joueur, même si je kiffe depuis qu'il avait été découvert à l'Ajax, avec sa créativité, son abattage physique, puisqu'il est là sur tout le flanc, à la fois de l'attaque et à la fois au milieu de terrain. Moi, c'était sur la question mentale de ce joueur. Pour moi, il n'avait pas réussi à s'imposer à Manchester United. C'était assez compliqué, surtout au moment où il était arrivé. Je me demande, est-ce que dans un PSG un peu paillette, même si on a enlevé certaines stars, mais on connaît bien tout l'environnement Paris Saint-Germain, est-ce qu'il serait dans la capacité à pouvoir s'imposer aussi facilement? Je suis pas sûr. Après, techniquement, sur le joueur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est le style de joueur que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu à l'Ajax dans son épopée. Il avait été très important, notamment avec un milieu avec De Jong où il était très très fort. Et c'est le joueur qui pourrait nous manquer. Et c'est surtout ça dans un milieu de terrain où si tu mets un Ougarté, un Zaïre Emery et peut-être un Van de Beek, ça pourrait nous faire énormément de bien dans la liaison défense-attaque. Avec notamment une dernière passe qui manquerait, là où on reproche parfois un Vitinha est un petit peu trop timide, là on ne l'aurait pas. C'est vraiment dans sa
Oui.
capacité mentale à s'adapter en fait à un football aussi qui est différent aussi.
Moi, j'ai peur que ce soit un peu plus que mental.
Ce serait sur quoi?
Ben, en fait, si tu veux, c'est un joueur qui a brillé. Et comme tu l'as dit, son épopée à l'Ajax était extraordinaire. Cette demi-finale qu'ils ne doivent jamais perdre, on ne va pas revenir dessus. Mais oui, il faisait partie de cette génération dorée. Il y avait De Ligt, De Jong au milieu, des joueurs qui nous ont fait tous rêver et tous fantasmer. Mais c'est un joueur qui a jamais vraiment confirmé après. C'est-à-dire qu'il part d'abord dans un premier temps à United, mais il est quasi prêté 6 mois après ou quelque chose comme ça, parce que ça se passe vraiment pas bien. À Everton, il a pas beaucoup de temps de jeu. Il revient à United. Il y a sa cote, elle est quand même montée à un moment à 55 millions. Sur Transfermarkt, à l'heure actuelle, elle est à 13 millions. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qui était vraiment taillé pour jouer à l'Ajax. C'est-à-dire des circuits courts de passe. Et dès qu'il a pas ces circuits courts de passe, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément de solution. Et du coup, j'ai du mal à le voir, à s'insérer, quel que soit le collectif, sauf si on est dans un truc de circuit court de passe. Et c'est un joueur dans lequel, que je l'avais adoré. Mais dès que je l'ai vu à United, à un moment, je le voulais même à Paris à l'époque. Mais dès que je l'ai vu à United, à aucun moment, il n'y a pas eu vraiment de match où on a retrouvé le Van de Beek de l'Ajax. Et donc c'est qu'il était dépendant en fait de l'Ajax. Et si tu regardes un peu historiquement, avec ma mémoire, je suis pas capable d'en citer, mais tu as plusieurs joueurs comme ça qui ont été formidables à l'Ajax et dès qu'ils sont partis, bah tu les retrouvais pas forcément. Et je pense que c'est l'archétype de ce genre de joueur et pour moi ça serait vraiment une mauvaise idée pour le coup. Genre, je veux un milieu, mais j'aimerais pas que ce soit lui.
Ce serait en fait ce serait un pari, ce serait un pari sur la sur le
Ouais,
projet.
est-ce que tu peux le relancer, mais c'est...
Le truc, c'est qu'on en a fait déjà tellement des paris, même sur du court terme, mais j'ai pas envie non plus que ça soit un panic buy. Quitte à ce qu'on attende, et faut pas oublier, mais il y a un mercato qui se fera en janvier. Hein, donc, quitte à ce qu'on attende et qu'on puisse ajuster encore un peu plus, comme ce qu'on avait pu faire il y a quelques années, quand il a fallu aller acheter un dernier joueur, parce que peut-être t'avais pas le temps de négocier pour l'été, et que tu vas le chercher là. Je crois que c'est ce qu'on avait fait à l'époque, je crois, pour le premier mercato avec Maxwell, qu'on était parti chercher en hiver plutôt qu'en été, si je me trompe pas.
C'est pas plus Motard. Après, ma mémoire est pas bonne, mais mémoire, c'est. Ah, mais après, je me souviens plus, mais peu importe. Ouais.
C'était un des deux, oui. Mais en tout cas, tu as la possibilité de le faire. Il faut pas qu'on le prenne aussi, notamment pour que ça soit un panic buy. Tu vois, on a besoin automatiquement et non, il y en a d'autres encore à cibler. Il faut juste voir, attendre parfois les opportunités aussi. Et puis, à voir. Hein.
Alors là, on en est à 20 minutes, donc je vais hâter un tout petit peu la fin. Pour toi, les priorités, là, c'est clairement un offensif et un milieu, on verra. Pour moi, il faut le milieu et l'offensif. Mais bon, de toute façon, là où on est d'accord, c'est qu'au niveau des offensifs, tu peux pas partir ne serait-ce que pour 6 mois, parce qu'effectivement, il y a janvier avec seulement 3 offensifs. C'est revoir Vitinha en ailier. Ça fait un peu mal au cœur quand il est purement ailier. Et donc, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez des pistes. Est-ce que vous pensez que Van de Beek, ça va être une bonne piste? Bon truc, est-ce que Kolo Muani, il faut absolument le faire? Si vous connaissez bien le Baka du PSV, le Johan Bakayoko, n'hésitez pas à nous dire vos inputs, qu'est-ce que vous en avez pensé. Encore une fois, les likes, en vrai, ça vous prend 2 secondes, vous êtes arrivé au bout de la vidéo, vous lâchez votre petit like, on compte sur vous, et je vous dis merci de nous avoir suivis. Ciao Lolo, et ici c'est...
Ciao. Bye.